J'aimerais parler ce matin sur le principe de loyauté. Dans 1 Samuel chapitre 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements et même son épée, son arc et sa ceinture.
Amen.
Beaucoup de chrétiens pensent qu'on peut vivre sa vie sans se soucier des principes de la parole de Dieu, des conseils qui nous sont donnés. Mais en réalité, la parole est là pour nous former, pour nous façonner, et nous devons apprendre à la connaître, à la méditer et la mettre en pratique. Ça, c'est notre part. La parole de Dieu, donc, elle ne change pas, et elle donne les vrais principes spirituels de la vie chrétienne. Après, chacun est libre et responsable. Il y en a qui en prennent une partie, d'autres une autre, d'autres ne s'y fient pas, et puis d'autres qui cherchent vraiment à obéir à la parole et la mettre en pratique. J'aimerais voir un exemple au travers de Jonathan. Jonathan, l'ami de David. De ce principe de loyauté, loyauté spirituelle. C'est un principe plus important qu'il n'y paraît. Parce qu'on ne peut pas s'épanouir et servir efficacement dans l'œuvre de Dieu sans développer ce principe de loyauté. Loyauté les uns envers les autres, loyauté envers les responsables. C'est un principe que Dieu bénit. Le premier point que je vois dans ce passage, je l'appelle l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle, on voit au verset 1 une communion d'esprit. Il est dit que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. On appelle ça la communion d'esprit. Car l'âme de l'un et de l'autre se sont attachées pour certaines raisons. Pourquoi des croyants sont en commun? Parce qu'ils ont le même Dieu, bien sûr. Dieu nous a sauvés par le sang de Jésus, nous sommes rachetés, nous l'avons confessé, nous l'avons proclamé au travers de la Sainte-Seine tout à l'heure. Nous avons le même Dieu, nous avons le même Père, nous sommes sauvés par le même Seigneur. Et donc cela crée des liens spirituels qui sont forts. C'est pour ça que la Bible compare l'Église à une famille. Nous sommes le peuple de Dieu, oui, mais nous sommes une famille, c'est-à-dire des frères et des sœurs en Christ. Ici, nous sommes la famille de Toulouse-Ouest. Mais il y a la famille de toutes les églises, et finalement, c'est la famille de Dieu. C'est tous des frères et des sœurs. Si bien que lorsqu'on rencontre d'autres croyants, eh bien, nous découvrons des frères et des sœurs en Christ partout. Le Nouveau Testament nous parle de l'importance de la communion. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Et nous verrons qu'il y a une condition à la communion. Jean dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, c'est-à-dire Jésus, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. On ne peut pas être en communion avec tous. Si vous lisez le verset qui précède, il est question de ceux qui marchent dans les ténèbres et qui se disent chrétiens. Et Jean dit, ils ne sont pas en communion avec Dieu, même s'ils se disent chrétiens. On ne peut pas marcher dans les ténèbres et en même temps dire qu'on est en communion avec Dieu. Il dit qu'ils ne marchent pas dans la vérité. Donc la condition, au verset 7, c'est « si nous marchons dans la lumière ». C'est-à-dire que notre vie est transparente devant Dieu, que nous vivons dans la vérité, que nous avons été sauvés, rachetés par le sang de Jésus, que nous avons confessé nos péchés et que nous marchons conformément à ce que Dieu nous demande. Ça, c'est la base de la communion. Sans cette base solide, c'est-à-dire marcher dans la lumière, Jean, dans cette première épître, dit on ne peut pas être en communion s'il n'y a pas cette base. Donc il faut marcher dans le même esprit. C'est le cas de David et Jonathan. L'âme de David s'attacha à celle de Jonathan parce qu'il y avait cette base. Ils marchaient tous les deux dans la lumière. Et ça, c'est important. Un deuxième aspect, toujours dans le même texte, c'est l'amitié au verset 3. Il est dit que Jonathan fit alliance avec David. David et Jonathan, donc, ont conclu une alliance, c'est traduit dans la version Semeur. Ils ont fait un pacte d'amitié. Un pacte d'amitié. Et Pierre, dans le Nouveau Testament, nous recommande de développer cette amitié dans l'Église. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. Alors, Pierre dit, « À cause de cela même, ne faites aucun effort. » Comme ça. On aime mieux faire aucun effort. Mais la Bible, elle utilise le mot « faire des efforts ». Et en général, on n'aime pas trop faire des efforts. Et pourtant, le Seigneur nous demande « Faites tous vos efforts !» Donc, il va y avoir un travail à faire sur soi-même, un travail pour Dieu. Alors, il dit « Il faut joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour fraternel. » Voilà ce que dit la Bible. Et elle commence, avant d'énumérer cette liste de choses que nous devons mettre en pratique, elle nous dit, mais déjà, il va falloir faire des efforts. Déjà, rien que ce mot, ça en effraie plus d'un. Parce qu'on aime bien avoir les choses sans effort. On aimerait bien tous avoir la ligne, mais sans faire d'exercice physique. Je voyais une publicité dans une pharmacie. Si vous achetez les pilules, vous perdez 3 tailles sans effort. Alors je ne dis pas le nom du... Je ne me rappelle même plus du nom du produit. Incroyable. Sans effort, on peut obtenir des choses. Ça, c'est le monde. Et toujours, on cherchera à faire les choses sans effort. Mais la parole de Dieu, elle nous dit, faites tous vos efforts. Et il va falloir travailler. Il va falloir développer la connaissance, il dit. La connaissance, elle ne vient pas sans travail. La connaissance de la parole de Dieu, ça prend du temps. Ça nécessite de l'étude, ça nécessite de se mettre à part, de méditer, de chercher. C'est un effort. On le voit par rapport aux étudiants qui sont inscrits au groupe d'études bibliques INSTE. Ils commencent à étudier la parole de Dieu par eux-mêmes, ils font des efforts, mais cela produit du fruit. Quand on fait des efforts, cela génère un fruit positif. Il faut faire des efforts dans le bon sens. Étudier la parole de Dieu, c'est un travail. La maîtrise de soi, c'est un effort. Est-ce que c'est naturel de se maîtriser soi-même? Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Il faut faire des efforts. Quelquefois, on est en colère, on s'énerve. Et peut-être on est placé dans un milieu, un contexte difficile au travail. Et vous êtes irrité par votre collègue ou par votre patron qui peut-être s'acharne sur vous, qui vous fait du mal. Et il faut se maîtriser. Maîtrise de soi. Il faut faire des efforts pour cela. C'est pas facile. La patience. Est-ce que c'est facile d'être patient? À l'école, à Toulouse-Ouest, je suis à l'école de la patience. Et oui, on doit être patient les uns envers les autres. Chacun est à l'école de la patience. Et on apprend à s'aimer les uns les autres. Et j'aime bien cette expression. À tout cela, vous ajoutez l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle que je retrouve entre David et Jonathan. Nous la retrouvons dans l'Église. L'amitié fraternelle, qui se manifeste par des actes concrets, un service rendu, on se soutient les uns les autres, on s'encourage. Voilà ce que c'est l'amitié fraternelle, ça se manifeste dans la vie quotidienne. Le verset 4, un troisième élément. Jonathan va honorer David en lui donnant ses armes, les vêtements, son épée, sa ceinture, etc. Il va l'honorer. Honorer. Pourquoi est-ce que Jonathan donne tout ce matériel? On se rappelle que David vient d'un milieu très humble. Il était simplement berger. Et on sait que Jonathan, c'est le fils du roi. Donc il est à la cour avec tous les avantages que ça peut avoir et tous les moyens financiers. Et donc Jonathan va être touché par la condition de David et va l'aider. C'est comme s'il l'aidait financièrement, c'est comme s'il le soutenait. C'est un moyen de lui dire « Je t'honore », un moyen de lui dire « Je t'apprécie, tu comptes pour moi ». Et dans l'Église, nous devons aussi avoir de la considération les uns pour les autres, et se soutenir, s'honorer. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12, dit ceci, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, pour ceux qui vous dirigent, dans le Seigneur qui vous exhorte, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. C'est vrai que dans ce contexte, il s'agit des responsables. Mais ce n'est pas facile d'être un responsable dans le monde. Parce que quand vous devenez responsable, vous devenez une cible potentielle pour toutes sortes de mécontents. Il y a des gens qui vont pas aimer ce que vous faites, ce que vous dites. C'est comme ça. Et Paul lui-même, pourtant, qui était un apôtre rempli du Saint-Esprit, qui aimait Dieu, n'a pas été apprécié par certains chrétiens, notamment de l'église de Corinthe. C'est rapporté dans les Épîtres aux Corinthiens. Il le dénigrait, il ne reconnaissait pas son autorité. Il disait, oui, Paul est fort en lettres, dans ses lettres, mais quand il est présent, il est faible. Et ils avaient un discours, on va dire, qui manquait d'honneur. Pourquoi ? Ils le méprisaient, en réalité. Et c'est important parce que il y aura toujours ces conflits-là, il y aura toujours des combats. Mais il y a toujours d'autres personnes, comme Jonathan, qui vont soutenir et qui vont encourager. Et ça, c'est bien. Parce que Jonathan va manifester son soutien à David et son affection alors qu'il est dans une situation difficile, qu'il est dans un conflit, qu'il est dans des problèmes avec Saül, mais Jonathan lui manifeste son affection. Alors la fidélité, on la voit dans un deuxième passage, c'est au chapitre 20, verset 12, parce que les choses vont mal tourner. On peut lire 1 Samuel, chapitre 20, verset 12. Jonathan dit à David, « Je prends témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. David, ici, parle de son problème à Jonathan, c'est au début du chapitre 20, on n'a pas du tout le chapitre, mais le conflit avec Saül a empiré. Saül est devenu jaloux. De plus en plus, il voit les succès de David qui remporte des victoires et il cherche à le tuer à plusieurs reprises. Donc, Saül se sent menacé, il croit que David va prendre sa place. Il fait tout pour l'évincer. Et il y a toujours des gens comme ça qui vont se retourner contre vous, d'une manière ou d'une autre. Ils ne vous aimeront pas, ce n'est pas grave. Car vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. David ne pouvait pas plaire à Saül. Pourquoi ? Parce que Saül était dans un autre état d'esprit. Il était tourné vers les choses du mal. David était tourné vers les choses de Dieu. Et ça ne pouvait pas plaire à Saül, de toute manière. Donc l'important, c'est de chercher à plaire à Dieu. Mais en cherchant à plaire à Dieu, ça va générer quelques oppositions. Il faut le savoir, ce n'est pas un problème. Certains même de vos anciens amis vont se retourner tout d'un coup contre vous et vont devenir des ennemis. Ils vont vous voir d'un mauvais œil. Ils vont craindre que vous ne preniez leur propre place. C'est le cas de Saül. Il craignait que David prenne sa place. Alors, ce que je remarque chez Jonathan, premièrement, c'est qu'il va intervenir auprès de David et il va dire « Je serai ton médiateur auprès du roi ». Donc, il se place entre son père et David pour essayer de trouver une solution. Jonathan, en quelque sorte, prend le rôle du médiateur. Il va tout faire pour aider son ami. On a un exemple dans le Nouveau Testament, c'est Barnabas. Barnabas qui signifie « fils d'exhortation », c'est l'histoire de cet homme Barnabas qui, voyant que Saul s'est converti, Saul qui était un persécuteur, il a tout fait pour le mettre, mettre en considération aux yeux des apôtres. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas gagné car les apôtres voyaient en Saul de Tarse, et il voyait un persécuteur de l'Église. Alors Barnabas a fait le médiateur. Et il a pu arriver à ses fins. Jonathan a essayé de faire un médiateur, il ne va pas réussir. Au verset 17, il continue à manifester son affection. Il protesta auprès de David son affection pour lui. Paul nous recommande aussi de manifester notre affection les uns envers les autres. Manifester notre affection dans l'Église, dans Romains chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Voilà ce que c'est que l'Église. C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu où on manifeste son affection, et on peut le faire aussi en dehors des cadres, du cadre des réunions, en dehors du cadre de l'Église locale, quand on se voit en dehors de l'Église, bien sûr. Un lieu d'accueil. Est-ce que nous sommes accueillants? Est-ce que nous savons accueillir, comme par exemple une nouvelle personne vient? Est-ce que nous sommes plutôt méfiants? Qui est cet inconnu? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Est-ce qu'il est venu nous observer? Ou est-ce que vous êtes accueillant? Bienvenue! On est heureux de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez? Bien, soyez le bienvenu. Voilà, ça, c'est une attitude à développer, à cultiver. L'accueil. Il y a quelque temps, une chrétienne m'a dit, ça faisait 10 ans qu'elle était dans l'église, elle me dit, mais moi, je ne connais que 5 personnes dans l'église. Alors, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on connaisse davantage. Il faut qu'on se connaisse les uns les autres. Et ça, ça prend du temps. Ça fait que, bien à l'issue des réunions, on prend le temps de discuter avec même des personnes qu'on ne connaît pas. Faire connaissance avec des nouvelles personnes. Eh bien, ça ne se fait pas naturellement. C'est un petit effort à faire. Comme on a dit tout à l'heure, faites tous vos efforts. Eh bien, c'est un effort contre soi-même, peut-être la timidité, qui fait que on n'ose pas aller vers les gens qu'on ne connaît pas. Eh bien, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit d'amour, de grâce, de sagesse. C'est ça que Dieu veut, que nous soyons libres de ces choses. Alors, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'aller peut-être même vers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ne soyons pas méfiants. Hein, quelquefois, on se dit, oulala, je ne le connais pas, qui c'est celui-là? Il a une drôle de tête. Peut-être qu'il veut me voler mon portefeuille, j'ai peur. Ne soyons pas méfiants. Soyons confiants. Bien sûr, prenons le temps de se connaître, d'échanger. Un autre passage, un peu plus loin, un troisième point, c'est la position spirituelle de Jonathan. Toujours dans le chapitre 20, verset 24. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard. Il n'est pas pur. Certainement, il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe, c'est-à-dire David, n'a-t-il pas paru au repas ni hier ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte. » Voir mes frères, c'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que ce fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, on va le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, mais pourquoi ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère, et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Voilà, les choses donc continuent à se dégrader, Et maintenant, la position spirituelle, premièrement, il va prendre position pour David, son ami, devant le roi. Et si vous prenez position pour un ami qui est dans la vérité, dans la droiture, il y a certains qui vont se retourner contre vous. C'est comme ça. C'est difficile de prendre position. Peut-être qu'on aime bien la neutralité. Alors, Jonathan aurait pu essayer de faire un compromis avec son père et avec David, mais là, il ne pouvait pas. Il y a des moments où il faut prendre position, et c'est difficile de prendre position. Jonathan aime son père d'un côté, il veut lui plaire. Il espère que son père va changer d'attitude, donc il est toujours dans cette attitude de foi. En même temps, il aime David. Il sait que David est appelé par Dieu. Il espère que David va pouvoir revenir à la cour. Donc, il y a ce combat en lui-même. Mais il va clairement prendre le parti de soutenir David contre son père. Ce n'était pas facile, mais c'était la bonne position à prendre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Son père se retourne contre Jonathan. Et il veut le tuer. Il subit la colère de son père. Quand il prend position pour David, ça lui coûte cher. Tant qu'il n'avait pas pris position, pas de problème. Mais quand on prend des positions spirituelles, attention, ça génère de l'opposition. Saül se révèle sous son vrai jour. On voit sa haine, on voit sa jalousie, on voit la méchanceté de son cœur. Tout cela, il le contenait, il le maintenait tant qu'il pouvait, il donnait une bonne apparence. Mais là, la colère éclate parce qu'elle était éprouvée dans son cœur. Alors, c'est difficile pour Jonathan parce que c'est son père, parce qu'il veut que son père s'en sorte. Mais en même temps, il choisit de soutenir la vérité. Il sait que son père n'est pas dans le droit. Et donc, il va tout faire pour ramener Saül de sa décision. Et c'est bien ce qu'il fait, c'est courageux. Et il ne va pas réussir. Il a tout fait, donc, ce qui était possible matériellement, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, c'est prendre la décision à la place des autres. Et Saül doit prendre sa décision. Saül a fait ses mauvais choix, il a persévéré dans le péché, et il a continué à s'éloigner de lui. Pourtant, Jonathan l'a averti. Alors, on fait de notre mieux, on doit le faire, comme Jonathan. Mais nous ne pouvons pas prendre la décision à la place des autres. Et c'était à Saül de changer d'attitude. Donc, c'est courageux, mais c'est un combat spirituel puissant. Je dirais que c'est le combat central dans la parole de Dieu entre la chair et l'esprit. Il y a un combat spirituel puissant. Car si vous marchez selon l'esprit, Jonathan marche selon la pensée de Dieu, on dira selon l'esprit, il est comme David, eh bien, vous ne pourrez pas être en communion avec les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair à des désirs contraires à ceux de l'esprit. On est dans ce combat ici, entre Jonathan et Saül. La chair, c'est Saül. Ses dispositions sont vaines. Elles sont remplies de mal à l'égard de David. Il n'est pas dans la pensée de Dieu. Ses dispositions de la chair sont contraires à la pensée de l'esprit. La pensée de l'esprit, elle est dans Jonathan. Jonathan qui comprend que Dieu a un plan pour David, que David sera le prochain roi. Et il veut honorer la vie. L'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et notre but, nous chrétiens, c'est de nous soumettre à la pensée de l'esprit. Et ça a un certain coût. Même parfois dans notre propre famille. Car il est dit dans ce texte, à la fin de ce qu'on a lu, c'est le dernier verset, au verset 34, son père l'avait outragé. Voilà dans quelle situation se retrouve David, à cause de sa marche par l'esprit, plutôt Jonathan, à cause de son soutien à David et de sa marche par l'esprit, Jonathan est outragé par son père, il est même menacé de mort, c'est-à-dire que Saül prend une lance et veut le percer contre le mur, comme il avait fait à David. Jonathan et David sont unis. Si vous touchez à Jonathan, vous touchez à David, si vous touchez à David, vous touchez à Jonathan. Et donc même le père maintenant est prêt à tuer son propre fils. C'est comme s'il voyait David dans son propre fils. C'est ça, si vous prenez position spirituelle, pour la vérité, vous n'aurez pas que des amis. Certains se dresseront contre vous, mais ça c'est spirituel, il faut le comprendre. Parce que le malin, il n'est pas pour la vérité, il est pour le compromis, pour les ténèbres. Mais dès qu'on marche dans la lumière, rappelez-vous ce verset. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion. C'est ce que David a obtenu avec Jonathan. Et il ne peut pas quitter la lumière pour revenir sur les ténèbres avec Saül. Non, il a fait ce choix radical. C'est un choix difficile. Dernier passage pour vous montrer la reconnaissance des plans de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 23 et le verset 15. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva, alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et dit « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Au verset 16, il est dit que Jonathan est allé pour fortifier David. Mais David, il avait besoin d'encouragement. Il y a tellement de situations décourageantes. Il était chassé de la cour, il était en train de fuir dans les cavernes, il se cachait dans les déserts pour sauver sa vie. Il était dans une situation difficile. Pourtant, David était un homme de Dieu, il aimait le Seigneur. Ça n'empêche pas qu'il passe par l'épreuve. Et il connaît les découragements. Et c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui vont vous décourager quelque part. Il y en a toujours. Il y a même plus de gens qui vont vous décourager que des gens qui vont vous encourager. C'est un fait statistique. Et quand vous voyez certaines personnes, vous voyez déjà le découragement se profiler à travers elles. Ils ne sont jamais contents. Ils voient toujours le verre à moitié vide. Pour peu qu'on arrive à remplir le verre, ils disent « Je ne veux pas de ce verre, je veux un autre verre. » Ils sont jamais contents. Mais la parole de Dieu, au contraire, nous demande de nous encourager les uns les autres dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Pourquoi ce conseil? Parce que nous avons besoin d'encouragement. Nous devons encourager les autres et nous avons besoin aussi nous-mêmes d'encouragement. Alors au lieu de dire qu'est-ce que tu es nul, tu auras toujours tout ce que tu fais, plutôt, on pourrait dire, c'est vrai que tu as raté cette fois-ci, mais on va prier et je crois que tu vas réussir la prochaine fois. Et là, vous encouragez. Vous encouragez. Dans la plupart des églises, en moyenne, il y a à peu près 10 paroles de découragement pour une parole d'encouragement. À Toulouse-Ouest, on arrive à 9 paroles de découragement pour une parole d'encouragement. Gloire à Dieu. Et l'année prochaine, j'espère qu'on sera 8. Alléluia. Non, 8 de découragement pour une encouragement. Et on va diminuer. Et on va développer l'encouragement. Et ça, c'est nécessaire. Il y a quelques temps, en fait, ça remonte à l'été dernier, j'ai reçu une carte qui m'a touché, je l'ai lue lors de l'Assemblée Générale. Ce sont des chrétiens qui habitent en Bretagne et qui regardent notre site internet et qui écoutent les prédications. Et ils ont dit que les messages, les thèmes, très riche de la parole de Dieu, leur faisait beaucoup de bien. Ils nous ont remercié, ils ont envoyé un chèque de 100 euros pour nous remercier avec une gentille carte, pour remercier notre église et nous dans le service, etc. Et ça m'a tellement fait du bien, ça m'a encouragé. Alors, depuis ce jour-là, j'ai ouvert un fichier sur mon ordinateur. Je l'ai intitulé « Encouragement ». J'ai mis un S. Encouragement avec un S. Et bien, j'ai mis ce petit mot dedans. Et je me suis dit, ben, Seigneur, à chaque fois que j'aurai une parole d'encouragement, je le mettrai dans mon fichier. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire 2 pages et demie. Voilà. Merci pour vos encouragements. Parce que à chaque fois que vous m'encouragez, voilà. Vous savez ce que je fais? De temps en temps, je le relis. Ça me fait du bien. Parce qu'on a tellement besoin de s'encourager les uns les autres. Et on le fait si peu souvent. C'est pour ça que quand vous avez un encouragement, mettez-les quelque part. Et revenez-y de temps en temps. Comme ça, vous verrez qu'au bout d'un certain temps, vous en avez plusieurs. Et cela est toujours bon pour notre âme. Et au verset 17, il est beau ce verset parce que normalement, Jonathan devait régner avec Saül. Mais Jonathan reconnaît, non, ce n'est pas moi qui régnerai. Dieu a un autre plan. Il dit, je reconnais, David, que c'est toi qui règneras. Et mon Père le sait aussi. C'est pourquoi il veut la faire. Mais ça veut dire que Jonathan reconnaît le plan de Dieu. Il n'est pas jaloux. Il sait que Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Et il dit, mais moi je serai en second. Voyez verset 17. Tu règneras sur Israël, moi je serai au second. Il accepte ça. Pourquoi il accepte? Parce que c'est une donnée que Dieu a décidée. Dieu a choisi que David sera le roi. Et tout le monde ne peut pas être le roi. Tout le monde ne peut pas être le premier. Il y en avait un, c'était David. Et lui sait qu'il ne pourra pas être le premier, il sera au second rang. C'est comme ça, il accepte le plan de Dieu. Dieu choisit qui il veut. Et l'important pour nous, ce n'est pas de juger, de dire « Ah, pourquoi Dieu a choisi celui-ci? Pourquoi Dieu a choisi celle-là? Il aurait mieux fait de me choisir moi. » Notre but, ce n'est pas ça, mais c'est de reconnaître les dons et les talents que Dieu a confiés à l'un, que Dieu a confiés à l'autre, et de bénir le Seigneur pour sa grâce. Car personne ne mérite de faire quoi que ce soit dans notre devenir. Mais surtout, ne devenons pas amers en disant « Et pourquoi je n'ai pas été choisi? Et pourquoi je ne suis pas sur l'estrade? Et pourquoi je ne fais pas ce service ?» etc., etc. Parce que si on cherche les premiers rangs, on le fait par orgueil, par vanité, et Dieu fait ce qu'il veut. Et s'il a choisi quelqu'un d'autre, eh bien, gloire à Dieu. On ne pourra pas s'épanouir si on n'est pas dans le plan de Dieu. Et si, par exemple, Jonathan avait dit « Non, non, c'est moi qui régnerai », eh bien, il n'aurait pas reconnu le plan de Dieu, et il ne se serait pas épanoui. Il aurait été aussi comme Saül, malheureux, parce que ce n'était pas la place qui lui était affectée par Dieu. On ne peut pas s'épanouir quand on n'est pas à la bonne place. Donc, il n'y aura qu'un seul roi, ce sera David. Ça, c'est une donnée que Jonathan accepte. Tout le monde ne pourrait pas être roi. C'est pareil pour les autres ministères comme les prophètes, par exemple. Il y avait bien des prophètes en Israël. Mais tout le monde n'était pas prophète. Certains étaient appelés, d'autres pas. Les sacrificateurs. Tout le monde n'était pas sacrificateur. Il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur. Il y avait d'autres sacrificateurs. Et tout le monde ne pouvait pas être sacrificateur. Dans l'Église, c'est pareil, il y a des ministères. Paul parle des apôtres, des évangélistes, des prophètes, docteurs, pasteurs, etc. Il y a différents qui l'appellent, mais tout le monde n'est pas apôtre. Ou tout le monde n'est pas pasteur, ou tout le monde n'est pas prophète, etc. Chacun a reçu des dons, des talents. Le but de l'Église, c'est donc de reconnaître les dons et les talents que Dieu a donnés à l'un ou à l'autre. Jonathan, donc, reconnaît, c'est David qui régnera. En conclusion, je reviens sur ce thème de la loyauté parce que c'est une constante chez Jonathan. Il est resté loyal vis-à-vis de David jusqu'au bout. Il a eu une attitude spirituelle. Il a pris position alors que Saül était défiant, il était jaloux. Il était tellement rempli de méchanceté que son cœur s'est ouvert aux mauvais esprits qui l'ont poussé au suicide. La loyauté de Jonathan était la bonne voie. Ça lui a coûté cher, ça a brisé la relation avec son père, et peut-être ça va vous coûter même dans votre propre famille, parce que l'intégrité dans une relation, ça va nous coûter quelque chose. Mais c'est une position spirituelle, c'est pas facile, mais en même temps c'est la volonté de Dieu. On va prier un instant. Merci encore Seigneur pour ta parole, pour ta grâce, ton esprit qui est là. Et nous voulons te bénir pour ton œuvre. Nous savons que tout ce que tu fais est bon. Et tout ce que tu dis Seigneur, c'est la vérité. Et nous te prions Seigneur pour que dans notre Église, il y ait vraiment cet amour fraternel, ce respect, cette communion d'esprit. Si nous marchons tous dans la vérité, nous voulons Seigneur chercher ta face, ta pensée, être remplis de toi, afin d'être des instruments utiles, être loyaux les uns envers les autres, nous soutenant réciproquement, nous aimant les uns les autres, et partageant l'amour de Dieu autour de nous. Dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen.